écoutez France Inter, vous avez bien raison. Il est 19h. Le journal vous est présenté par Frédéric Barrère. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal de 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. Tester, alerter, protéger face à l'épidémie de coronavirus. Une campagne de tests massifs va débuter dans deux régions pilotes, au Havre et à Charleville-Mézières. Dépistage gratuit, non obligatoire. 54 communes de la communauté urbaine du Havre sont concernées. Amélie Bonté, dans un instant. L'Allemagne se confine partiellement avant Noël les commerces non essentiels. Les écoles ferment mercredi. Dans certaines régions, l'épidémie est hors de contrôle. Beaucoup d'agitation à Bruxelles aujourd'hui. Finalement, l'Union européenne et la Grande-Bretagne d'accord pour poursuivre les négociations post-Brexit. Attention, le scénario le plus probable reste le no deal. Boris Johnson, Premier ministre britannique.
Voyons ce que l'on peut faire, mais dans le même temps, préparez-vous avec confiance le 1er janvier pour une sortie sans accord s'il le faut.
Dans ce journal également, une mauvaise nouvelle pour la filière foie gras des Landes. Encore un élevage contaminé par la grippe aviaire. Vos rendez-vous du 19h. La page sport avec du football et le match PSG-Lyon ce soir. Des incidents en marge de la rencontre Nantes-Dijon cet après-midi, de la Formule 1, de la natation. Et nous irons également à Marseille où le football professionnel et amateur lutte contre le fléau du racisme. Et puis à suivre la semaine prochaine, notre coup d'œil sur l'agenda des temps fort de l'actualité. En fin d'édition, c'est mon actu, notre rendez-vous du dimanche avec Sandrine Houdin. Rencontre ce soir avec trois copines confrontées à une envie pressante alors que les bars et les restaurants sont toujours fermés. C'est compliqué, témoignage en fin de journal. La météo pour demain, Mossad au nord avec quelques nuages, temps sec au sud et à l'est avant l'arrivée de nuages. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 19h30, les petits bateaux, Noël Bréham.
Je m'appelle Pauline, j'ai 6 ans, je voudrais savoir s'il reste encore des bisons en Amérique du Nord. Merci.
19h30, réponse, les petits bateaux.
France Inter.
Dépistage pour tous avant les fêtes dans deux régions pilotes. À partir de demain, dans l'agglomération de Charleville-Mézières, dans les Ardennes et au Havre, en Seine-Maritime, des opérations de dépistage du coronavirus débutent à grande échelle. Une opération qui va durer toute la semaine. Au Havre, les 270 000 habitants des 54 communes de la communauté urbaine sont invités à se faire dépister. Le test est gratuit, il n'est pas obligatoire. Amélie Bonté.
L'opération sert à deux choses. D'abord, à prouver la capacité du testé, alerté, protégé. Il s'agit de raccourcir le circuit afin de casser au plus vite les chaînes de contamination. Donc au même endroit, en quelques minutes, vous pouvez faire ces trois étapes. Un prélèvement, un résultat immédiat et si vous êtes positif, un agent vous réserve un hôtel pour l'isolement par exemple ou bien met en place tout de suite un service de garde d'enfants, de livraison de repas si vous pouvez vous isoler chez vous. Ensuite, cette opération permet d'avoir une photographie de la circulation du virus sur un territoire précis à un moment donné. Pour mieux armer ce territoire du Havre pour la suite de l'épidémie et une potentielle troisième vague. Pourquoi le Havre ? Parce que le taux d'incidence du virus y était le plus fort au cours de ce second confinement, c'est-à-dire que le nombre de nouveaux malades détectés, rapportés à l'ensemble de la population du territoire, était le plus important de la région Normandie. Par ailleurs, il est intéressant d'étudier les résultats au vu de la diversité géographique, une grande ville, des communes plus petites et rurales, donc des habitudes de vie différentes. Enfin, dans le cadre de ce dispositif, des volontaires seront recrutés pour un programme de recherche.
Amélie Bonté, France Bleu, Normandie. Dépistage massif au Havre et à Charleville-Mézières. Dépistage obligatoire en Corse pour les fêtes de fin d'année. Mesure annoncée hier par la préfecture et l'Agence régionale de santé pour préserver l'île où le taux de contamination a fortement baissé. À partir du week-end prochain, les personnes âgées de plus de 11 ans qui souhaitent aller en Corse devront présenter un test négatif. Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse, soutient cette mesure et en appelle à l'esprit de responsabilité des voyageurs.
Pour bien comprendre, d'abord rappeler bien sûr que la Corse est une île, 330 000 habitants l'hiver, beaucoup de personnes âgées et très peu de lits de réanimation. Le flux de personnes entrantes pour les vacances de Noël, c'est environ 50 000 personnes. Sur les 50 000 personnes, il y a une petite partie de vacanciers et une grande partie de Corses de l'extérieur qui viennent pour retrouver leur famille ou de ce qu'on appelle des affinitaires, c'est-à-dire des gens qui ont en Corse une résidence secondaire, des proches, etc. Il faut enfin insister sur le fait que ce n'est bien sûr pas un frein au déplacement. L'objectif, c'est de faire que les fêtes de Noël se passent au mieux et qu'on ne se retrouve pas en janvier avec un rebond et une troisième vague épidémique.
Gilles Simeoni avec Jules de Kiss. Et puis, plusieurs fêtes clandestines ont eu lieu la nuit dernière dans plusieurs villes de France, en plein confinement. À Marseille, une fête a réuni 500 personnes lors d'une soirée privée et payante. Les fêtards ont été évacués par la police. Plusieurs amendes ont été dressées. Il n'y a eu aucune interpellation. Une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte pour retrouver les organisateurs de la soirée. À Strasbourg également, une procédure judiciaire pour mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte contre l'organisateur d'une soirée privée. La fête a réuni une centaine de personnes dans un local de restauration. L'invitation à la soirée avait été lancée sur les réseaux sociaux. Enfin, à Rezé, près de Nantes, plus d'une centaine de jeunes se sont rassemblés pour une fête sauvage en plein air à proximité d'un pont sur la Loire. Une enquête a également été ouverte. La progression de l'épidémie de coronavirus en Allemagne, où dans certaines régions, l'épidémie semble hors de contrôle. Angela Merkel annonce un confinement partiel à partir de mercredi et pour plus de 3 semaines. Les commerces non essentiels, les écoles vont fermer. La chancelière allemande veut éviter une propagation du virus à l'occasion des fêtes de fin d'année. Berlin, Nathalie Versieux.
Nous sommes contraints d'agir et nous agissons maintenant, a expliqué la chancelière à l'issue de la rencontre de ce matin, faisant allusion aux 350 à 500 morts déplorés quotidiennement en Allemagne. Dès mercredi, les écoles et les jardins d'enfants seront fermés jusqu'au 10 janvier, de même que les commerces non essentiels. Il sera désormais interdit de vendre de l'alcool sur la voie publique, une mesure qui vise directement les stands de vin chaud qui sont apparus un peu partout dans le pays. Restaurants, bars, cafés et institutions culturelles fermées depuis début novembre ne rouvriront pas pour les fêtes et seule la famille proche pourra être réunie autour de la table de Noël. L'État fédéral et les Länder s'affrontaient depuis des jours sur la stratégie à mener face à la pandémie alors que le nord du pays semble relativement épargné face au sud et à l'ouest de l'Allemagne où 80% des lits en soins intensifs sont occupés par des patients du Covid. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
Le Brexit, à l'image d'une série Netflix avec plusieurs saisons. Le long feuilleton du Brexit continue. Londres et Bruxelles ont donc décidé à la dernière minute de poursuivre les négociations pour parvenir à un accord commercial entre coup de bluff et date butoir non tenue. Les négociations ont été riches en rebondissements. Européens et Britanniques se donnent finalement une nouvelle chance, un effort supplémentaire pour éviter un no deal, un échec des négociations aux lourdes conséquences économiques. On retrouve en direct de Bruxelles notre correspondant Angélique Bouin. Bonsoir Angélique.
Bonsoir.
Alors un nouveau délai dans les négociations, est-ce que cela veut dire Angélique qu'il y a eu des progrès dans les discussions ?
Des progrès notables, non. Il y a bien eu quelques avancées, mais tellement minimes qu'elles ne valent même pas d'être citées, dit une source européenne. Il y a eu des mouvements sur la pêche, on en parlait déjà ces derniers jours, une ouverture sur les conditions auxquelles Londres pourrait accéder à notre marché unique, sans quotas, ni droits de douane, mais les divergences restent fortes et les chances d'aboutir infimes, selon plusieurs sources européennes. Reste qu'aucune des deux parties n'avait pour intention de débrancher la prise, selon la formule qui circule ce soir chez les observateurs de cette saga sans Enfin, les Européens, bien campés sur leur ligne rouge, attendent toujours un geste significatif de la part de Londres. Et si Boris Johnson lui-même ne siffle pas la fin des négociations, eh bien, elles continueront. Nos négociateurs ont travaillé jour et nuit, ont indiqué les deux leaders dans un communiqué. Et malgré les délais dépassés, malgré l'épuisement, ils vont poursuivre par esprit de responsabilité, a insisté la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans sa déclaration. Un retour des juristes, donc, dès aujourd'hui à la table des négociations et une formule qui prouve qu'il y a encore de l'espoir à 3 semaines de la date butoir.
Angélique Bouin à Bruxelles, merci. Direction Londres maintenant où le climat reste lourd et peut-être plus pessimiste sur l'avenir des négociations. Après avoir annoncé la poursuite des discussions, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, loin de s'enflammer, a aussitôt tempéré la signification de ce nouveau délai en expliquant que le scénario le plus probable reste l'échec, le no deal. Richard Place en direct de Londres. Bonsoir Richard.
Bonsoir.
Les négociations vont se poursuivre et Boris Johnson, Richard, s'est exprimé cet après-midi.
Oui, avec toujours le même message, préparons-nous à une sortie sans accord commercial. Mais Boris Johnson dit clairement désormais, c'est une petite inflexion, que ce n'est pas l'option qu'il préfère. Il a peut-être entendu dans son propre pays les nombreuses voix, en particulier dans le secteur économique, qui l'enjoignent à trouver un terrain d'entente avec l'Europe. Ces jours-ci, les patrons ont exprimé leurs craintes, vivent avec un marché européen inaccessible ou via des taxes exorbitantes. Le Premier ministre britannique pense sans doute à eux lorsqu'il précise que les gens veulent que les négociations se poursuivent. Son propos reste quand même globalement pessimiste, encore plus qu'Ursula von der Leyen.
If Ursula is optimistic, then that's great.
Si Ursula est optimiste, c'est super. Mais pour autant que je sache, il reste des problèmes graves et très compliqués qui séparent actuellement le Royaume-Uni de l'Union européenne. Une sortie sans accord commercial, ce n'est pas ce que l'on veut, mais si on doit le faire, le Royaume-Uni est plus que préparé. Le Brexit a été voté il y a 4 ans et demi, ce qui laisse le temps de se préparer en effet. Pourtant, ce n'est pas ce que l'on voit dans le sud du pays, dans le Kent. Les parkings censés accueillir les milliers de poids lourds bloqués dans des embouteillages causés par de nouvelles formalités douanières. Ces parkings sont toujours en construction et ressemblent surtout à d'immenses terrains vagues boueux. Ils doivent être opérationnels dans 18 jours.
Richard Place, correspondant de France Inter à Londres. Merci Richard. Le département des Landes, à nouveau frappé par la grippe aviaire et une très mauvaise nouvelle donc pour la filière foie gras de ce département. Un troisième élevage de canards a été contaminé dans la commune d'Angresse, voisine des communes de Saint-Jour-de-Marenne et Bénesse-et-Marenne, déjà touchées par le virus la semaine dernière. Le risque de contagion est élevé et les 3000 canards et poulets de l'élevage ont été abattus. Serge Mora, président du MODEF des Landes, un syndicat agricole de petits exploitants.
Il est impossible de fermer un bâtiment. On ne peut pas mettre un bâtiment sous vide. Forcément, dès qu'il y a de l'air qui circule... Moi, je ne vois pas comment on peut empêcher totalement l'entrée d'un virus dans un bâtiment. On n'y arrive pas. On l'a bien vu en 2017, il y a eu des bâtiments de reproducteurs qui ont été touchés dans le département ici, alors que c'est des élevages qui sont en concentration totale.
Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer selon vous dans les jours, dans les semaines à venir?
On n'a qu'une chose à faire, c'est croiser les doigts, que chacun reste le plus prudent possible, qu'il respecte au maximum les consignes de biosécurité, désinfecter les véhicules ou les bottes quand on rentre sur un site, enfin, des gestes barrières pour copier une autre pandémie. Ce qui s'applique en médecine animale peut très bien s'appliquer en médecine humaine et vice-versa. C'est la seule solution qu'on a actuellement. Quoi.
Serge Mora avec Renaud Biondi-Mauger de France Bleu Gascogne. La page sport de ce journal de 19h. Bonsoir Vincent Pellegrini.
Bonsoir Frédéric.
Et on démarre avec du football et une vraie belle affiche ce soir en Ligue 1. Le PSG reçoit l'Olympique Lyonnais.
Oui, le terme de match au sommet n'est pas galvaudé. Le PSG ne possède que 2 points d'avance sur Lyon. Bonsoir Jean-Pierre Bimeau.
Bonsoir Vincent.
Un match d'autant plus excitant que contrairement aux saisons précédentes, les positions sont très resserrées en tête du classement.
Oui, il faut remonter à 6 ans en arrière pour assister à un tel choc entre deux des plus gros budgets de la Ligue 1. On peut même dire les deux plus gros budgets du championnat. Ce soir, l'intérêt, c'est également l'enjeu sportif, car il existe une possibilité pour le Paris Saint-Germain et pour Lyon de terminer cette 14e journée en tête du classement. Le PSG ne survole pas le championnat comme les années précédentes. Il a déjà été battu 3 fois et c'est tout l'intérêt de ce choc, car ce soir, une victoire permettrait par exemple à Lyon de prendre les commandes. Un événement alors qu'un tiers du championnat a été joué à l'heure où Lille a provisoirement pris la tête il y a quelques minutes après sa victoire contre Bordeaux. Lyon a surtout gagné 7 fois pendant une série de 10 matchs sans défaite et reste sur 4 succès consécutifs. Ce serait une récompense pour les joueurs de Jean-Michel Aulas. Côté parisien, on peut se targuer de rester aussi sur 3 victoires, d'avoir une qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions en poste, en poche, et puis surtout des hommes en forme. Neymar, 5 buts en 3 matchs. Et puis, même si Mbappé pourrait être ménagé ce soir, le Paris Saint-Germain a tout de même les moyens de rendre ce choc encore plus attrayant.
Voilà, et le PSG connaîtra demain son adversaire en 8e de finale de la Ligue des Champions. Tirage au sort à midi.
Et cette 14e journée de Ligue 1 a été marquée par des incidents, Vincent, en marge de la rencontre Nantes-Dijon.
Oui, environ 300 supporters ont bravé les interdictions pour venir manifester aux abords du stade de la Beaujoire. Des échauffourées ont éclaté. Ces derniers voulaient protester contre la gestion du président du club, Valdemar Quita. Un signe de plus, Jules Housseau, de l'ambiance délétère qui règne autour du FC Nantes.
Des banderoles, des lacrymogènes, un bus des joueurs obligé de faire un petit détour pour arriver à destination. Scène quelque peu surréaliste ce midi aux abords du stade de la Beaujoire, mais pas inédite non plus à Nantes, où 300 à 400 supporters des Canaries ont défilé pour réclamer une nouvelle fois le départ de Valdemar Quita, le propriétaire qui a racheté le club en 2007. Depuis, l'équipe est tombée dans l'anonymat du ventre mou de la Ligue 1, visitant même la Ligue 2 quelques saisons. Mais plus que la médiocrité des résultats, c'est l'absence de projet sportif, illustré par l'instabilité des entraîneurs sur le banc qui cristallise la colère des fans depuis des années. Limogé en début de semaine, Christian Gourcuff est ainsi venu allonger la longue liste d'une quinzaine de coachs épuisés ici en 13 ans. Problème aussi du terrain sportif, la crise déborde maintenant sur le terrain judiciaire. Mardi, des enquêteurs sont ainsi venus perquisitionner les locaux du club dont le président Quita est par ailleurs en délicatesse avec le fisc. C'est un fait, au cœur d'une saison déjà compliquée par les déboires du diffuseur Média Pro, le FC Nantes est bel et bien secoué à tous les étages. Jules Housseau à Nantes pour France Inter.
Nantes qui a concédé le nul un partout face à la lanterne rouge Dijon.
Et puis l'épilogue cet après-midi du championnat du monde de Formule 1, le dernier Grand Prix s'est disputé à Abu Dhabi.
Oui, il n'y avait plus de suspense concernant l'issue de ce championnat. Lewis Hamilton était déjà assuré du titre. C'est Max Verstappen qui s'est imposé aujourd'hui. C'était la dernière course de Renault en tant qu'écurie à part entière. 4 ans après son retour en F1, la firme aux losanges change de stratégie. Renault sera remplacé l'an prochain par Alpine, une des marques du groupe Fabrice Abral.
Mais Renault ne quitte pas pour autant la Formule 1. La firme aux losanges fournira notamment les moteurs aux deux Alpines pilotées en 2021 par Fernando Alonso et Esteban Ocon.
Content de représenter Alpine l'année prochaine. La première chose, c'est une fierté parce que d'avoir une marque à nos couleurs, un peu bleu, blanc, rouge, c'est quelque chose de spécial. On peut être que content et puis aussi on peut être qu'heureux de voir la confiance que le groupe Renault porte au sport automobile et à la F1.
Car Renault, malgré la crise économique, ne remet pas en cause son engagement en Formule 1. Luca De Meo, le PDG de Renault, l'a confirmé. Alors certes, Alpine remplace Renault au plus haut niveau, mais comme l'explique Alain Prost, le quadruple champion du monde et directeur non exécutif de Renault F1, la firme aux losanges restera au cœur du projet, destiné désormais à accélérer le développement et le rayonnement d'Alpine.
Ça aurait été très facile pour Luca Di Meo d'arrêter le programme F1. Au contraire, là, non seulement c'est pas un arrêt, mais c'est une stratégie qui est derrière, ce qui est quand même le plus intéressant. Une stratégie par rapport à une marque, on va dire que c'est presque une nouvelle marque. La marque Alpine, elle est connue, elle existe, mais elle va être justement, grâce à la F1, complètement déployée, si possible, dans le monde entier. Donc on utilise la F1 comme un outil marketing et d'image.
Dans l'histoire de la Formule 1, Renault a décroché 11 titres de champion du monde des pilotes, dont 2 pour Fernando Alonso, et 12 couronnes mondiales des constructeurs, dont 5 avec Williams et 4 avec Red Bull entre 2010 et 2013.
La prochaine saison de F1 débutera en Australie fin mars.
Et puis après 4 jours de compétition, les championnats de France de natation s'achèvent ce soir à Saint-Raphaël.
Oui, ces championnats sont la première étape sur la route des Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Avec le contexte sanitaire très incertain, la fédération a imposé de nouveaux critères de qualification. Il faudra attendre fin mars pour savoir qui ira au Japon. Et cela change pas mal de choses pour les nageurs, Jérôme Val.
Oui, c'est ça. D'habitude, la qualification se fait sur une seule épreuve. Le nageur fait les minima, il va au jeu. Mais là, il faut qu'il soit le plus rapide sur une période qui s'est ouverte ce week-end et qui se terminera en mars à Marseille. Florent Manaudou, par exemple, a réalisé vendredi les minima sur le 50 mètres nage libre. Mais si un autre nageur fait mieux d'ici 3 mois et que lui ne nage pas plus vite, eh bien le Marseillais n'ira pas au jeu.
Honnêtement, avec son âge, je suis pas sûr d'être qualifié directement. Je vais pas m'estimer qualifié. C'est pour ça, si je voulais nager vite à 21.5, 21.4, j'étais presque sûr d'être qualifié là. Il y a de grandes chances, mais pour l'instant, c'est pas sûr.
Pour l'instant, 4 nageurs ont rempli ces critères. Manaudou donc, Mélanie Hennick, David Aubry et Beryl Gastaldello.
Je me sens pas sur un siège éjectable parce que je vais garder ma place. Je me prends pas la tête, pour être honnête. Moi, c'est une perte d'énergie, ces choses-là, donc je leur fais confiance. S'ils font ça, c'est qu'il y a une raison.
Si la fédération a changé les règles du jeu, c'est parce qu'il y a cette incertitude liée à l'épidémie. La volonté aussi et surtout de maintenir les nageurs sous pression le plus longtemps possible. Julien Issoulier est le directeur technique national.
Quand on est qualifié à une échéance et qu'elle est loin, on a tous un peu tendance à se détendre. Mais là, l'objectif était plutôt de se dire, les gars, on peut pas se détendre, c'est demain en fait. Donc on prend 2-3 jours pour s'aérer, on est content, on dit bonjour à la famille et après, focus jusqu'au jeu. On se rend compte que les nations qui arrivent à le faire, ce rebond, sont souvent celles qui ont la qualification la plus tardive. On a fait ce pari cette année-là dans un sens de responsabiliser nos meilleurs et leur donner confiance.
Il y aura une seconde chance en juin avec des chronos moins exigeants, mais à seulement 1 mois des Jeux Olympiques. Olympiques.
Coup d'envoi de la Coupe d'Europe de rugby ce week-end. Les 8 clubs français ont brillé. 7 victoires, une seule défaite. Cet après-midi, Lyon et le Racing se sont imposés. Et puis demain midi se déroulera au Palais Brongniart à Paris le tirage au sort de la Coupe du Monde de rugby 2023 en présence d'Emmanuel Macron. Ce mondial de rugby se disputera du 8 septembre au 21 octobre 2023.
On va s'intéresser maintenant à un sujet grave, le racisme, un fléau dans le football. Contre le racisme, continuons à gagner du terrain. Ce slogan a été martelé ce week-end au moment des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Une opération en écho au match historique mercredi dernier entre le PSG et le club turc du Başakşehir. Les joueurs, vous en souvenez, ont quitté la pelouse en réaction aux propos jugés racistes d'un arbitre. Le racisme est un fléau ancien dans le foot professionnel, mais aussi chez les amateurs. C'est le long format de ce soir, Jean Saint-Marc.
Les footballeurs victimes de racisme sont parfois très jeunes. Mehdi, par exemple, il a 17 ans, il joue pour un club des quartiers sud de Marseille.
C'est des insultes, on m'avait insulté. Je me rappelle plus trop, mais c'était par rapport à ma race, par mon origine et tout, voilà. Ça a provoqué des embrouilles, des bousculades.
Aucun rapport n'a été fait sur cet incident et c'est rarement le cas, reconnaît Faisal, l'entraîneur de Mehdi.
Le joueur sur le terrain, bon voilà, il invective l'arbitre en lui disant monsieur l'arbitre, mais bon, l'arbitre, tant qu'il a rien entendu, il peut rien faire. Et puis on sait que voilà, après, c'est parole contre parole. Hein.
Signaler un fait de racisme, c'est prendre le risque d'un match retour tendu. Les supporters de l'équipe adverse pourraient se venger. C'est souvent d'eux que viennent les insultes, selon Kamel, le président de la AS Mazargues.
Quand on a tendance à aller dans des petits patelins ou sur les gradins, on entend parfois des choses qu'on ne devrait pas entendre autour d'un terrain. Le noir, on tourne chez toi, surtout Marseille. Hein. Marseille, on le sait, on est mal vu et mal accueilli certaines fois.
Bien sûr, il n'y a pas qu'à Marseille que des footballeurs sont victimes de racisme. Ce joueur amateur qui témoigne anonymement dit avoir été ostracisé par ses coéquipiers car il est musulman. Ça s'est passé dans le Val d'Oise il y a quelques saisons.
En fait, à la base, ça a vraiment commencé sur des remarques et des blagues en fait, entre eux où ils étaient seuls à rigoler sur le couscous, sur la prière. C'était beaucoup de blagues comme ça en fait, et à répétition. On sentait qu'on était mis à part.
La saison dernière, la Fédération française de football a comptabilisé moins de 60 actes racistes sur des terrains, sur plus de 400 000 matchs observés. Cela fait moins de 0,1% des rencontres, affirme Pierre Samsonov, le directeur adjoint de la FFF.
On est à la fois sur quelque chose qui reste dans une fourchette relativement faible au regard du million de matchs qui est organisé chaque année dans le football amateur, mais en même temps sur un phénomène qui a une petite tendance à l'augmentation et qui donc doit nous interroger.
Une autre source à la Fédération reconnaît que ces chiffres sont probablement très loin de la réalité. Les instances incitent les clubs à signaler tous les faits de racisme et font de la sensibilisation auprès des jeunes. Pour Eli Attia, le président de la LICRA à Marseille, il y a une prise de conscience du problème dans le football, mais c'est très récent.
Ce phénomène de racisme, l'antisémitisme et l'homophobie existe depuis de nombreuses années, mais il s'est accentué ces derniers temps, ce qui a fait que de nombreuses associations se sont réveillées pour lutter contre ces formes de discrimination.
Les sanctions prévues par la fédération sont lourdes, jusqu'à 5 mois de suspension de licence. Les auteurs d'insultes racistes peuvent aussi être poursuivis en justice. Ils encourent 45 000 euros d'amende et 1 an de prison.
Long format signé Jean Saint-Marc.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine et on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité à venir. Et la semaine va débuter sous un climat orageux. Emmanuel Macron rencontre 130 membres de la Convention citoyenne pour le climat pour les rassurer. Ils craignent un détricotage de leurs propositions pour lutter contre le réchauffement climatique. Le Brexit, suite demain. Michel Barnier, négociateur européen, informera les ambassadeurs de l'Union européenne de l'état des discussions avec le Royaume-Uni à l'étranger. Début de la campagne de vaccination massive aux États-Unis. 100 millions d'Américains devraient être vaccinés contre le coronavirus d'ici la fin mars. Et en France, le rendez-vous est fixé à mercredi. Le gouvernement expliquera aux députés et présentera sa stratégie en matière de vaccination. À noter également mercredi, l'heure du verdict au procès des attentats de janvier 2015. Un procès historique et 14 accusés. Charlotte Piret.
Ils seront les derniers à plaider. Demain matin, les avocats de Mohamed Amin Farès et Michael Pastor Alouatik se lèveront pour leur défense. Puis, comme le veut la règle dans les procès d'assises, le dernier mot reviendra aux accusés eux-mêmes. Ces 11 hommes tenteront une dernière fois de convaincre leur juge que non, ils ne savaient pas ce qui se préparait lorsqu'ils ont acheté un taser, une voiture d'occasion, transporté un sac d'armes. Les dés seront alors jetés et c'est dans le secret du délibéré que les 5 juges professionnels, enfermés dans une caserne 2 jours durant, vont répondre aux questions qui leur sont posées sur la culpabilité ou non de chacun, la qualification pénale, la durée de la peine et décider du sort de ces hommes qu'ils sont chargés de juger. Viendra alors l'annonce. Mercredi, accusés, avocats, parties civiles reviendront dans la salle d'assises où ils ont débattu pendant 3 mois pour l'énoncé du verdict. Enfin jeudi, dernier volet avec l'audience sur les intérêts civils. Et ce sera la fin de ce procès historique.
Le procès des attentats de janvier 2015, verdict mercredi. Jeudi, grève à la RATP. Et vendredi, Jean-Pierre Pernaut présente son dernier JT de 13h sur TF1. L'un des temps forts de l'actualité la semaine prochaine, c'est la fin du confinement mardi prochain et l'instauration d'un couvre-feu. Les lieux culturels, mais surtout les bars et les restaurants, resteront fermés. C'est l'actualité pressante que vivent certaines femmes depuis plusieurs semaines maintenant, et notamment ces 3 copines que Sandrine Houdin a rencontrées. Le conseil scientifique et le gouvernement n'y avaient sans doute pas pensé avant de décider le confinement et la fermeture des bars et des restaurants. Sandrine Houdin y a pensé. Comment font les femmes pour une urgence pipi? C'est un sujet très sérieux qui concerne par exemple les infirmières libérales, les pervenches, les factrices, toutes celles qui travaillent dehors ou font leurs courses. Sandrine Houdin a posé la question à 3 copines, dont une trépignée sur le trottoir, jambes croisées, témoignage.
Mais je cherche un petit coin pour me soulager, parce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire pipi. Et il faut que je trouve un petit coin tranquille. Attendez, attendez.
Ah. Et si je vous fais
non,
méchante là.
Ouais. Là, 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 peut-être.
Oh non, 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 attendez, c'est une entrée de parking.
Non, mais il n'y a personne, là. Je suis cachée, en plus, c'est en contrebas.
Ah, non, ça s'ouvre. Regardez, ça s'allume. Il y a une voiture.
Ah, merde, je vais attendre un peu, alors. Là, c'est dommage, il y a les barrières. Ça aurait été bien, là. Quoique, non, il y a du monde.
Ah oui, il y a les jardiniers. 30 secondes. Madame, non, mais une minute. Je vous vois, vous partez vous balader, là, avec votre poussette. Il n'y a pas de caméra cachée. Si vous avez une envie pressante, vous faites comment?
C'est un vrai sujet. Les bars sont fermés, tout est fermé, donc il ne reste plus qu'à se cacher entre 2 voitures, non?
C'est vrai. Avant, il suffisait d'aller prendre un petit noir au bar, quoi.
Oui, et puis en plus, avec les enfants, je pouvais apitoyer le monsieur. Bonjour, monsieur, déjà avec une petite voix très mignonne. Hop, je pouvais aller aux toilettes. À une époque, il y avait les petits entonnoirs qu'on a dans les festivals, là. C'était pratique.
Les pistes debout.
Une vraie avancée pour la femme. Mais sauf qu'il n'y a plus de festival. En même temps, je me dis que tout ça nous fait travailler un peu un muscle, c'est le périnée. Et grâce à ce confinement et à ce problème, j'ai tout remusclé.
On n'a jamais pensé à cette conséquence du confinement.
Non. Et là, ça monte. Le besoin est essentiel.
D'ailleurs, il pourrait peut-être rajouter la case sur l'attestation de sortie. Il y a la case envie de faire pipi?
Non.
Bah, rajoutons une case, motif impérieux.
Oui. Enfin, la plupart de nos chères têtes pensantes sont des mecs, quoi. Donc, ils y pensent même pas, quoi.
Il y a un monsieur, là.
Non, mais attendez, France Inter nous arrête pour nous parler des problèmes liés au confinement, certes. Et moi, en tant que femme, eh ben, je leur dis, bah, moi, mon plus gros problème, c'est d'être dehors, c'est d'avoir envie de faire pipi, de ne pas trouver un bar d'ouvert pour aller faire pipi. Vous rendez pas compte?
Non, mais c'est certain.
Donc quoi faire?
L'autre côté.
Dans le petit parc?
Oui, dans le petit parc.
Mais il y a des gens qui passent.
Monsieur, France Inter, qu'on n'ait quand même pas l'air ridicule, c'est un vrai problème pour ces femmes.
C'est certain. Nous ne sommes pas physiquement tout à fait pareils de ce côté-là.
Ça, c'est sûr. Donc, en fait, vous êtes totalement solidaires avec ces dames.
Bah, bien sûr.
Tous ensemble, hé, hey, hé, hey, tous ensemble, hé. Hey. Non, ne hey. Sautez pas trop, je sens que ça va couler.
Voilà, 3 copines à la recherche de toilettes introuvables. C'est mon actu, Sandrine Houdin. Au générique de ce journal, Antoine Cruchon et Antoine Teboul à la technique qui m'ont aidé à préparer cette édition avec Lionel Thompson à la rédaction en chef, assisté de Swat Bouzard et Benjamin Ducy. Merci à eux et merci à vous de nous avoir écoutés. Le temps pour demain, Mossad.
La météo avec les œufs de Loué. Par tous les temps, les œufs de Loué sont pondus par des poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Michel Golinski.
Un temps sec ce dimanche sur les parties sud et est du pays avec une journée globalement ensoleillée. C'est par conséquent une bonne nouvelle pour les départements du sud-ouest encore maintenus en vigilance orange crue. Par contre, les régions du quart nord-ouest n'en ont pas terminé avec le temps maussade en raison d'une perturbation abordant cette nuit les pays de la Loire, la Bretagne et la Charente-Maritime. En journée, ces pluies généralement faibles vont progresser vers le nord de la Seine. Dans un même temps, le vent de secteur sud va souffler à 70 km par heure. En fin de nuit, les températures vont baisser entre 2 et 3 degrés sur les régions de l'Est et du Nord de la Seine. L'après-midi, dans ce flux de secteur sud, les valeurs seront supérieures à celles d'aujourd'hui dans les parties Ouest et Sud, avec par exemple 14 degrés sur la Bretagne, 13 à 16 du Sud-Ouest à la Méditerranée, même 18 sur le Pays Basque. Il fera 11 degrés de moyenne du Nord de la Seine au centre et 6 à 9 entre l'Alsace-Lorraine et le Dauphiné.